L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs seulement.
Bonjour Jean-François Bodin.
Bonjour Nicolas.
Et ce matin, vous recevez la directrice de cabinet du haut-commissaire.
Oui, Anaïs Taïs-Mansour, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour évoquer un certain nombre de sujets. On va revenir sur la réglementation concernant les armes blanches parce qu'il y a un certain nombre de précisions à apporter. Mais avant cela, deux sujets d'actualité. Le Haut-Saria a décidé la fermeture administrative pendant 2 mois d'un nouveau Nakamal qui se situe à Duco. Ça veut dire que les opérations de contrôle se poursuivent et vous êtes très vigilant sur ce point-là ?
Ah, tout à fait. Comme on a pu le dire, on est beaucoup présent sur le terrain, être là où il faut quand il le faut. Et parmi un des axes prioritaires, à la fois national et aussi du haut commissaire localement, c'est la lutte contre le trafic de stupéfiants, qui est un vrai fléau pour la société nationale. Il y a une actualité très forte en ce moment à Marseille sur le sujet, mais aussi localement. On n'est pas face à de la criminalité organisée dans les mêmes proportions qu'on peut avoir dans certains territoires nationaux. Néanmoins, on est présent et ça passe par la fermeture d'établissements où on observe du trafic de stupéfiants de façon régulière. Et c'était le cas de ce Nakamal. Et on a d'autres procédures qui sont encore en cours. Vous en saurez plus dans les prochaines semaines. Mais voilà, les forces de l'ordre sont là pour veiller à lutter tous les jours contre le trafic de stupéfiants.
C'est des trafics qui se font au sein des Nakamals ou aux alentours des Nakamals ?
Ça peut être les deux. Ce qu'on peut constater, ça peut être les deux. Après, là, je laisse la main au procureur parce que les enquêtes sont en cours, donc je ne ferai pas de commentaires. Mais nous, de façon administrative, on ferme des établissements dès lors qu'on constate qu'il y a une activité illicite de trafic qui est également liée à l'activité commerciale de ces établissements.
Alors, à propos de trafic de drogue, on sait qu'il y a des ballots de drogue qui sont arrivés à Marais, qui ont été restitués aux autorités. Il y avait eu le même cas de figure à l'île des Pins. Ce n'est pas un trafic organisé, c'est des paquets qui arrivent par la mer, donc ils n'ont pas été réceptionnés a priori par les personnes qui devaient les réceptionner. Il n'y a pas d'inquiétude particulière ou il faut quand même rester très vigilant ?
Bon, alors sur ce point-là, sur l'enquête en tant que telle et la provenance, je laisserai le soin au procureur de la République et au parquet de Nouméa de commenter cette affaire. Moi, ce que je tiens à dire, comme le rappelle la Gendarmerie nationale, ce sont des produits extrêmement dangereux pour la santé publique, pour les personnes, et il faut absolument les remettre aux forces de l'ordre dès lors qu'ils sont découverts. C'est ce qui s'est passé à Marais, et je remercie les personnes qui ont remis aussitôt ces produits toxiques aux forces de l'ordre. Pour le reste, l'enquête est en cours.
Alors Anaïs Mansour, il y a quelques jours, il y a eu une extension de la réglementation concernant les armes blanches par décret, mais c'est un décret national en fait qui est applicable en Nouvelle-Calédonie. C'est pas un décret qui s'applique uniquement à la Nouvelle-Calédonie.
Tout à fait, c'est un décret national dans un objectif assez large. Il y a deux objets. C'est la lutte contre les armes extrêmement dangereuses. On va en reparler de certaines d'entre elles qui sont maintenant complètement interdites. Et surtout, la lutte contre la vente d'armes blanches aux mineurs. Là aussi, on a une actualité nationale assez importante, mais y compris dans certains outre-mer. C'est un peu moins le cas en Nouvelle-Calédonie. On observe moins ce phénomène-là d'armes blanches dans des groupes de mineurs, dans le cadre de RICS. C'est quelque chose qu'on voit un peu moins. Néanmoins, on est très vigilant et c'est un décret national. C'est une compétence de l'État, la réglementation sur les armes. Donc on la met complètement en œuvre en lien avec les partenaires du territoire.
Alors on va essayer de comprendre un petit peu quelles sont ces armes, parce que pour beaucoup d'entre nous, on a découvert des termes qu'on ne connaissait pas forcément. Il y a deux armes qui sont désormais complètement interdites, hein, c'est les couteaux dits zombies et les coups de poing américains. Alors qu'est-ce que c'est que ces fameux couteaux zombies ?
Exactement, alors voilà, ça a donné lieu à beaucoup de commentaires pour savoir qu'est-ce qu'était un couteau zombie. Bon, déjà, si vous en avez un chez vous, vous avez un doute, il ne faut pas hésiter à le rapporter chez un armurier qui fera une analyse assez précise, ou éventuellement en commissariat ou en gendarmerie. Un couteau zombie, en fait, c'est un couteau qui a plusieurs pointes pointues, plusieurs faces tranchantes et plus de 2 trous dans sa lame. Bon, on le voit, on a mis une photo sur nos réseaux sociaux. C'est pas tout à fait des couteaux avec lesquels on va à la pêche ou qu'on utilise au camping. Ce sont vraiment des couteaux. Ce sont des armes de guerre pour certains. Et ceux-là sont maintenant complètement interdits. Ce qui est également complètement interdit, ce sont les poings américains récents, qui sont post-1900. Pas des coups de poing américains de collection. Et dont certains aussi ont des armes, des bombes lacrymo intégrées, etc. Bon, tout cela sont complètement interdits à la vente, au transport et on ne peut pas les détenir sur la voie publique. Donc, si vous en possédez un, pour le moment, on vous laisse le temps jusqu'au mois de décembre pour pouvoir les ramener en commissariat ou en brigade de gendarmerie afin de procéder à leur destruction.
Alors, est-ce que ces armes interdites sont toujours en vente, notamment dans les armureries? Parce que ce n'est pas le genre d'armes qu'on trouve dans des commerces qui vendent des armes et qui ne sont pas des armureries. C'est vraiment les armureries qui détiennent ce genre de produits?
Alors, c'était plutôt les armureries qui avaient ce genre de produits. On les a contactés. En fait, il y en avait très peu en Nouvelle-Calédonie. Hein. C'est de l'ordre de 1 ou 2. Qui ont été restitués par ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on travaille toujours de façon assez étroite avec les armuriers. Et bien sûr, si toutefois certains d'entre eux auraient un stock, etc., on peut voir avec eux pour procéder à leur destruction.
Alors c'est plus compliqué pour les magasins ou les commerces qui vendent des armes, mais dont ce n'est pas forcément le métier, qui ne sont pas des armuriers. Là aussi, il y a un certain nombre de dispositions qui s'appliquent désormais.
Exactement. En fait, il faut, sur les armes blanches, il faut comprendre de façon assez simple et schématique il y a les armes blanches dites utilitaires. Le camping, la cuisine, le poisson. Ça, ce sont, on peut les trouver dans n'importe quel commerce et ils sont libres à la vente. Et il y a les armes blanches qui sont référencées en catégorie D, donc des armes de défense, qui, elles, ne se vendent que chez les armuriers ou alors les commerçants qui en vendent ont jusqu'au mois de mars pour se déclarer auprès du Haut Commissariat parce qu'ils vendent des armes dites de défense, des armes blanches de défense. Il s'agit notamment des couteaux papillons, donc ces couteaux qui s'ouvrent un peu en étoile, des étoiles justement ninja, des couteaux automatiques, tous avec une ouverture automatique et des crans d'arrêt. Ça, on les considère comme des armes de défense. Ouais. Et dans ce cas-là, si vous êtes un commerçant mais vous n'êtes pas un armurier, que vous vendiez ce type de couteau, il faut vous signaler auprès du Haut Commissariat afin qu'on ait un référentiel et qu'on puisse savoir nous aussi où sur le territoire se vend ce type de produit. Tout est sur le site internet du Haut Commissariat pour les professionnels qui nous écoutent. On a aussi travaillé avec la CCI et la Chambre de métiers que je remercie par ailleurs parce qu'ils ont transmis nos communications pour justement expliquer ces différentes armes. Le plus simple en tout cas, c'est de prendre contact avec nos services si vous avez des doutes en tant que commerçant. Et de façon générale, je le redis, les armes blanches sont interdites à la vente aux mineurs. Il y a une obligation d'affichage et on ne vend pas d'armes aux mineurs.
Alors Anaïs Haït-Mansour, ce décret métropolitain a été pris, on le sait, dans un contexte où il y a de la violence qui s'exprime de plus en plus avec des attaques à l'arme blanche. Il a donc été étendu à la Nouvelle-Calédonie où il est applicable. On se souvient qu'il y avait aussi des craintes devant un certain nombre d'établissements scolaires parce qu'il y a des risques qui éclataient régulièrement et que la police et les services des forces de l'ordre avaient décidé d'être plus présents. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que vous constatez des risques de plus en plus nombreuses? Et est-ce que l'utilisation de couteaux aujourd'hui est encore quelque chose que vous constatez?
Alors, on a été très présent cette année. En effet, on a mis en place un système de coordination avec le vice-rectorat, les provinces, l'enseignement public et privé, afin de mettre en œuvre des contrôles aux abords des établissements, parfois sous réquisition aussi du procureur, pour nous permettre d'ouvrir des sacs. Et depuis février, depuis la rentrée de 2025, on effectue 2 à 3 contrôles par semaine aux abords des établissements, tant en zone police qu'en zone gendarmerie, et toujours en lien étroit avec le vice-rectorat et les chefs d'établissement eux-mêmes qui savent nous dire éventuellement les jours où il peut y avoir des tensions aux abords de tel et tel établissement. Donc on a fait quand même beaucoup de contrôles. Sur l'ensemble de ces contrôles, on a retrouvé très peu d'armes blanches. Hein, je tiens à le dire, c'est de l'ordre de 5 ou 6 sur toute la Nouvelle-Calédonie. Et puis bon, c'était plutôt des couteaux utilitaire, couteau de pêche, un opinel pour son casse-croûte, voilà, mais on n'a pas trouvé d'armes du type, comme j'ai pu vous l'expliciter tout à l'heure, d'armes de défense. On travaille, alors vous parliez des rixes. Des rixes, on en a eu quelques-unes un peu sensationnelles parce qu'il y a eu des vidéos sur les réseaux sociaux. Je tiens à dire que les forces ont agi avec discernement et efficacité en lien avec les chefs d'établissement pour les accompagner sur des procédures disciplinaires et pour surtout mettre fin aux faits graves. On observe moins de rixes. Par contre, ce qu'on observe, c'est encore et toujours des atteintes aux biens, aux abords des établissements scolaires, des cambriolages, des dégradations, des destructions. Et là, c'est un travail partenarial avec tout l'écosystème de l'établissement scolaire, mais aussi autour de l'établissement scolaire. Je vais vous donner un exemple, c'est celui de Porte de Fer, où à Porte de Fer, il y a des exactions aux abords des établissements scolaires. Et vraiment, il y a un travail étroit qui se fait avec des réunions toutes les semaines entre le chef d'établissement, la directrice de la police, la ville de Nouméa, la province, et y compris les bailleurs sociaux, parce qu'il y a un voisin voisinage avec des jeunes individus qui sèment de troubles autour de l'établissement scolaire. Donc voilà, on pense globalité, on pense vraiment sécurisation de tout l'environnement scolaire.
Alors puisqu'on parle de ce sujet, on sait qu'on approche de la fin de l'année, qu'il va y avoir la célébration des examens d'une certaine façon, les vacances scolaires, les fêtes de fin d'année. Est-ce que ça veut dire que c'est une période où les forces de l'ordre ont une vigilance un peu plus accrue que ce qu'elles ont habituellement parce que c'est une période un peu plus mouvante?
Comme d'habitude, les fêtes de fin d'année, c'est des événements liés à retrouvailles en famille, consommation parfois un peu plus importante d'alcool, et les jeunes qui quittent les établissements scolaires et qui se repartent en famille ou ont plutôt du temps libre. Donc sur ce point-là, nous, dès cet après-midi, on va rencontrer l'ensemble des acteurs de l'éducation, public, privé, le gouvernement, les provinces, pour parler justement de la préparation de la fête de fin d'année et des sorties, et d'assurer aussi la sécurité des examens qui ont débuté comme vous le savez. Il y a un dispositif aussi pour les personnes qui partent en vacances, je pense que c'est important.
Vacances.
Exactement, tranquillité vacances qui commence à être connue. C'est très simple, si vous quittez votre domicile et vous partez sur plusieurs jours et que vous souhaitez que la police ou la gendarmerie prennent en compte votre résidence par des patrouilles aux abords pour vérifier si tout va bien, il suffit de vous présenter au commissariat ou à votre brigade de gendarmerie territoriale pour signaler l'adresse de votre domicile dans le cadre du dispositif tranquillité vacances et il y aura des prises de contact aux abords de votre résidence durant tout votre séjour.
Et pour être bien clair, ce dispositif qui s'appelle Tranquillité Vacances est valable toute l'année en fait. Hein.
Exactement, il est valable toute l'année et surtout il est gratuit, mais sur la base du volontariat. Donc il faut aller se présenter au commissariat et à la brigade pour signaler sa résidence.
J'en reviens au fait de fin d'année, à cette période de vacances. Vous avez, le commissaire l'a dit depuis déjà plusieurs mois, réactivité, présence sur le terrain, adaptation, c'est toujours le mot d'ordre pour s'adapter à cette situation qui arrive ?
Toujours le mot d'ordre, on est toujours très présent sur le terrain et en témoignent les opérations de contrôle qu'on fait régulières. On fait de très belles affaires sur du stupéfiant en ce moment, on reste présent pour la sécurité de tous les Calédoniens.
Anaïs Haït-Mansour, pour terminer, on va évoquer la question des violences intrafamiliales et des violences conjugales, dont on a beaucoup parlé, notamment hier et avant-hier, puisque l'État, le gouvernement ont dressé le bilan du Grenelle qui a été lancé en 2019. C'est une question qui reste très préoccupante, avec des chiffres qui ont explosé. Alors, les raisons pour lesquelles ces chiffres ont explosé sont évidemment multiples, mais ça reste une priorité de lutter contre ce fléau.
Les violences faites aux femmes, en effet, sont une priorité en Nouvelle-Calédonie. Là, depuis le début de l'année, sur les chiffres au 23 novembre, on est à 2500 violences intrafamiliales, dont l'immense majorité sont des violences conjugales et dont les femmes sont victimes. C'est énorme. En fait, c'est 9 violences intrafamiliales pour 1000 habitants. Au niveau national, la moyenne est plutôt à 2,5 à 3. Donc, on est 3 fois supérieur. Donc, c'est un phénomène qui nous inquiète. Une femme sur 4 en Nouvelle-Calédonie dit avoir été victime de violences et une femme sur 8 dit avoir été victime d'agressions sexuelles avant l'âge de 15 ans. Enfin, c'est particulièrement alarmant. En 2019, on était à peu près à 1500 faits de violences intrafamiliales déclarés ou constatés. Et là, on est à 2500. Donc, il y a eu 1000 de plus. Est-ce qu'il y a eu plus de violences ou est-ce que, au contraire, tout ce qu'on a mis en œuvre depuis 2019 permet maintenant que les victimes viennent se signaler et nous permettent de mener des enquêtes et surtout les protéger leurs enfants? Je pense qu'il y a un peu une part de ça. Nous, les priorités avec le gouvernement et le procureur de la République, que je remercie parce qu'on travaille vraiment en partenariat là-dessus, justice, État et gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. La priorité, c'est un, sécuriser les victimes et assurer le parcours de la victime de son dépôt de plainte jusqu'à sa nouvelle vie, si je puis dire, en sécurité, loin de l'auteur qui lui faisait subir des violences. Donc ça nécessite beaucoup d'investissement en matière d'hébergement, de formation des forces de l'ordre à l'accueil des plaintes. Et là, il y a eu un très beau travail qui a été fait avec la Maison des Familles, avec des gendarmes et des policiers qui se sont formés pour prendre les plaintes de victimes, avec des intervenantes sociales dans les commissariats et dans les brigades de gendarmerie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des assistantes sociales qui sont là pour accompagner les femmes qui portent plainte dans le cadre de violences intrafamiliales ou de violences sur mineurs. Et bien sûr, des places d'hébergement. Et ça, on est en train d'accompagner tout le territoire. On finance des places dans le Nord, en province Nord, en ce moment, dans le cadre du CAFED, pour accueillir des femmes victimes dans le Nord, pour le centre d'accueil des femmes en difficulté, y compris dans le Sud et dans la province des Îles. On finance également des petits dispositifs d'accueil en famille d'accueil. Voilà, donc c'est une des premières priorités. La deuxième priorité, c'est les mineurs. Les violences aux mineurs ont augmenté énormément en 2025 par rapport à 2023, c'est plus de 30%. Donc on constate que maintenant, les mineurs aussi sont victimes. Donc on va commencer à travailler sur ce sujet-là. Et enfin,
certains y voient un lien avec la situation économique, des personnes qui ont perdu leur emploi, des familles qui sont fragilisées, en fait.
Exactement. Et tout ça est le terreau, quand même, de la délinquance, quelque part, parce que la plupart des jeunes mineurs qu'on retrouve sur la voie publique en train de faire des troubles sont, par ailleurs, victimes de violences ou sont dans des situations familiales très complexes. Donc il faut absolument lutter contre ce fléau, parce que c'est lutter contre la délinquance aussi.
Mais alors, justement, l'État travaille avec les partenaires locaux pour la mise en place de dispositifs de signalement, pour l'accompagnement des victimes, on l'a vu. Il se pose aussi la question de la prévention de ce type de violence. Est-ce que, on sait que le gouvernement a lancé un certain nombre d'initiatives, est-ce que l'État aussi participe à cette question de la prévention?
Ah oui, tout à fait, on participe à la question de la prévention. Hier encore, on était à Blue Paris avec le gouvernement dans le cadre d'une pièce Boys and Girls qui était assez forte.
De la compagnie L'eau salée.
Exactement, qui était assez forte et qui permet, en fait, par la médiation culturelle, de prévenir ce type de violence. On va travailler un peu plus encore sur la prévention, mais les forces de l'ordre, par exemple, la gendarmerie, la police, vont toutes les semaines dans les établissements scolaires faire de la prévention sur les violences, sur le harcèlement auprès d'un public mineur. C'est des centaines d'interventions qui ont été faites devant les établissements. Et tous les gendarmes et policiers que je rencontre, à chaque fois qu'ils interviennent devant une classe, me disent, à la fin, ils ont au moins un, deux ou trois cas de mineurs qui leur déclarent soit être témoins de violences au sein de leur cellule familiale, soit même être eux-mêmes victimes. Donc, bien sûr, la prévention, on y est associé. Et le troisième point, et je tiens à le dire, c'est l'accompagnement des auteurs. Parce qu'il y a un travail à faire aussi sur ces auteurs
de
violence.
Pour éviter la récidive.
Pour éviter la récidive et pour surtout changer notre société. C'est quand même là l'essentiel. Pour apprendre qu'on ne corrige pas, entre guillemets, sa femme, sa sœur ou ses enfants de façon gratuite et systématique. Donc, sur ça, il y a un travail qui a été fait grâce à un centre d'accueil pour les auteurs. On fait des stages pour les auteurs de violences conjugales, qu'on finance également. Voilà, c'est plusieurs briques. Il y a le volet répressif, les enquêtes, le dépôt de plainte, la mise en sécurité. Et il y a, bien sûr, la prévention et l'accompagnement.
Anaïs Saïd Mansour, directrice de cabinet du Haut-Commissaire, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin.
Merci à vous. Bonne journée.